Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, en pleine guerre en Ukraine, ils disent leur peur, leur colère, leur frustration. Les soldats russes sont de plus en plus nombreux à s'exprimer sur les réseaux sociaux pour dénoncer face caméra le manque de nourriture, d'équipement ou de préparation. Ils sont aujourd'hui relayés par des femmes, des mères de soldats. Récit d'une grogne qui ne remet pas en cause le principe de la guerre, signé Léo Vidal-Giroux.
Au début, le ton était celui de la plainte, de l'appel à l'aide. Mais il devient maintenant, sur les vidéos que tournent les soldats russes mécontents, de plus en plus accusatoire. Écoutez par exemple ce chef d'une escouade d'assaut de l'armée russe dans une vidéo datant de la semaine dernière.
On est censé monter à l'assaut avec ça, avec des casques de chantier. Vous savez où on va, vous savez où vous nous envoyez, mais qu'est-ce que vous foutez? Je veux pas laisser la moitié de mes gars sur le champ de bataille, ça me hanterait pour le restant de mes jours. Et tout ça pourquoi? Pour que vous puissiez voler toujours plus.
Parfois, la situation peut même aller jusqu'à tourner à la bagarre entre soldats et officiers. Témoin cette autre vidéo, elle date de la mi-novembre, dans laquelle un soldat mobilisé n'hésite pas à menacer son colonel.
Je vais débarquer à l'état-major et je commence à vous casser les bras et les jambes, l'un après l'autre, tous les quarts d'heure, jusqu'à ce qu'on réponde à mes questions et que je voie des actions concrètes. Pourquoi, au lieu de vrais gilets pare-balles, on reçoit cette merde chinoise? Expliquez-moi ça.
Entouré de conscrits enragés, l'officier n'emmène pas large, il n'arrive pas à en placer une. Ses appels à la discipline tournent mal, le conscrit finit par le bousculer en l'agonissant d'injures. L'épisode est symptomatique. Alors qu'en septembre, les conscrits mettaient les erreurs et les manques sur le dos de la désorganisation des débuts, aujourd'hui on voit beaucoup moins d'indulgence. Les accusations contre la hiérarchie, taxées d'incompétence ou de corruption se multiplient, et même un invité pro-Poutine le reconnaissait récemment à la télévision d'État russe. L'irritation monte dans la société. D'ailleurs, ce ne sont pas que des soldats qui se filment en train de protester. Depuis plusieurs semaines, on assiste aussi à la montée d'un autre phénomène.
Notre fils nous a contactés, il demande de l'aide, il rampe au milieu des cadavres. Il y a un nombre inimaginable de morts, très peu de survivants, très peu, terriblement peu, peut-être une escouade sur plus de 500 personnes. Tous les autres sont morts, les nôtres ont survécu par miracle.
Ce que vous entendez, c'est une vidéo tournée par un groupe de femmes et de mères de soldats. Rassemblées devant un centre de recrutement, elles demandent des explications sur le sort de leurs proches. Elles se plaignent de les voir utilisés comme de la chair à canon, jetés au front sans préparation ni équipement. Des vidéos similaires apparaissent depuis le début du mois de novembre dans de très nombreuses villes de Russie.
Ils n'ont même pas passé d'examen médical, aucun, pour se faire embaucher quelque part. Il y a des jours d'examen. Et là, ils ont été examinés une demi-heure. Et hop, bon pour le service. Pas d'exercice de tir, pas de maniement des armes, rien du tout.
L'administration nous ignore.
Parce que leurs enfants, à eux, ils sont à la maison.
Nous vous demandons de l'aide pour les sortir de là. Nous avons besoin d'aide juridique, nous avons besoin d'aide médicale et nous avons besoin que vous preniez la situation en main.
À qui s'adressent ces soldats, ces femmes et ces mères? Qui est cette personne censée prendre la situation en main qu'invoquent les participantes de ces dernières vidéos? C'est assez flou. Sans doute, en fond, n'en sont-elles pas très sûres elles-mêmes. Les autorités compétentes, l'échelon supérieur, au fond, Vladimir Poutine lui-même, que personne n'ose encore mettre en cause personnellement, et dont beaucoup dans les milieux pro-guerre imaginent qu'il est tenu dans l'ignorance par ses subordonnés de toutes les erreurs qui sont commises en son nom. D'ailleurs, notez que l'on n'entend pas dans ces vidéos la moindre critique sur le fond de la guerre en Ukraine. Non, il ne s'agit pas pour ces femmes de se plaindre que leur fils ou leur mari ait été mobilisé, il s'agit de demander que cela soit fait dans de bonnes conditions, que l'équipement nécessaire leur soit fourni et que les primes promises leur soient payées. Les soldats qui se filment ne demandent pas la fin de la guerre, ils ne demandent pas à être démobilisés. Ils demandent à être mieux encadrés par leurs officiers.
On était armés de fusils de la dernière guerre, de mitrailleuses, avec un seul lance-grenade. Dans notre dernière position, on nous a fait construire des fortifications avec des matériaux datant de l'époque soviétique, périmés depuis longtemps.
Ces hommes, c'est un groupe de soldats russes de la région de Kherson. Abandonnés par leur commandant, ils ont décidé de se replier seuls et font une vidéo comme pour se justifier.
Le commandement ne nous a pas prévenu que notre rive du fleuve avait été capturée par l'ennemi. On a été attaqué par surprise à l'artillerie. Nous n'avions pas de communication avec le commandant de la compagnie, le commandant du régiment et les autres unités. Pas de soutien d'artillerie. Notre unité ne pouvait rien faire. On ne faisait que mourir sur place. Alors nous avons décidé de nous replier.
Cette pratique de s'adresser en vidéo au gouverneur ou carrément au président pour dénoncer des problèmes locaux, elle n'est pas nouvelle. En fait, elle existe depuis aussi longtemps qu'il existe en Russie des smartphones et des réseaux sociaux. Pour se plaindre d'une administration locale dysfonctionnelle ou corrompue, pour se plaindre d'une route défoncée, d'un puits hors service, d'un payé de salaire ou d'un dispensaire fermé, en s'adressant directement au Kremlin dans l'espoir d'obtenir justice. En 2020, un documentariste russe avait même compilé des centaines de ces vidéos pour en faire un film long métrage. En Russie, cette croyance a son dicton. Le tsar est bon, dit-on. Ce sont ces boyards qui sont mauvais.
La Russie, qui est aussi l'objet d'une controverse mémorielle, cette fois en Bulgarie, sans doute un des pays où la classe politique est la plus pro-russe du continent, la fête nationale fait l'objet d'une bataille avec les ultras, les plus proches de Moscou. Et il faut remonter au 19e siècle, lorsque la Russie tsariste libère la Bulgarie du joug ottoman, pour bien comprendre les enjeux, Damien Vodenicharov.
Le 3 mars, c'est le jour de la fête nationale en Bulgarie. C'est la date de la signature du traité de San Stefano en 1878 qui met fin à la 10e guerre russo-turque. En Bulgarie, l'événement est commémoré au mont Chipka, dans la chaîne des Balkans, où s'est tenue une bataille décisive du conflit. C'est une cérémonie en grande pompe. Le président et le premier ministre y tiennent des discours, des membres du gouvernement et du parlement sont présents. C'est un événement très important pour les Bulgares qui constitue aussi un lien fondamental avec la Russie. Pour l'extrême droite, qui prône un rapprochement complet avec Moscou, ce n'est pas assez. Le 3 mars dernier, on a surtout entendu des huées et aperçu beaucoup de drapeaux russes. Des militants d'extrême droite dans la foule veulent empêcher le Premier ministre de s'exprimer. Des boules de neige volent dans sa direction alors que les militants appellent la Bulgarie à sortir de l'OTAN. Il s'agit du parti Renaissance, dont le nom fait écho à cette période du 19e siècle lorsque le peuple bulgare se soulève contre l'Empire ottoman. Depuis, les liens avec la Russie constituent un élément très important de la politique, mais aussi de l'identité bulgare. Ils sont profondément culturels pour ses défenseurs. Ce sont des peuples slaves qui partagent l'alphabet cyrillique, la sonorité des langues se ressemble, les religions dominantes y sont le christianisme orthodoxe. Pour les détracteurs, la Russie a su manipuler l'histoire. Elle ne cherchait pas à protéger la Bulgarie, mais à défendre ses intérêts géopolitiques en élargissant sa sphère d'influence jusqu'aux frontières de l'Empire ottoman. D'ailleurs, l'État russe, sous ses diverses formes, Empire russe, Union soviétique ou Fédération, ne manque pas de rappeler à la Bulgarie son dû historique, que ce soit au XIXe siècle ou en 1944, lorsque les communistes bulgares prennent le pouvoir après un coup d'État et que l'armée soviétique envahit le pays.
Et le patrimoine, désormais objet de querelles politiques et historiques. La question des biens pillés dans les ex-colonies est un des sujets les plus urgents. La Belgique, longtemps en retard sur la question, a entamé à l'été 2021 un long processus de restitution des œuvres d'art spoliées dans ses anciennes colonies d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Et pour cela, Bruxelles a opté pour une approche assez unique, Laure Broulard.
Au lieu d'envisager les restitutions au cas par cas ou collection par collection, la Belgique a fait le choix d'une approche globale, en considérant que tout objet acquis de manière illégitime doit pouvoir être rendu. Le 30 juin 2022, le Parlement belge a ainsi adopté une loi reconnaissant le caractère aliénable de tous les biens liés au passé colonial du royaume, c'est-à-dire que les dizaines de milliers d'objets acquis entre 1845 et 1962 en Afrique centrale peuvent désormais faire l'objet d'un transfert de propriété de l'État belge vers leur État d'origine s'ils ont été acquis sous la contrainte ou en situation de violence. Et c'est une commission d'experts mixtes qui devrait déterminer cela. Pour la République démocratique du Congo, le pays avec lequel le processus est le plus avancé, cette commission devrait être mise en place en 2023. On parle d'environ 85 000 masques, instruments de musique ou objets du quotidien, pour la plupart entreposés au Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, près de Bruxelles. Un catalogue exhaustif de tous ces objets a déjà été donné aux autorités congolaises. Cependant, ils ne seront sûrement pas tous rendus. La RDC a fait savoir qu'elle privilégiait une démarche de reconstitution de ses collections plutôt que de simple restitution. C'est-à-dire qu'elle envisage de faire des demandes de pièces emblématiques et prioritaires qui font défaut au Congo aujourd'hui. À ce jour, aucune pièce n'a encore été officiellement rendue, mais un kakungu, un masque très rare d'origine congolaise, jusque-là exposé au musée de Tervuren, a fait l'objet d'un prêt à long terme au musée de Kinshasa. C'était lors de la visite du roi Philippe de Belgique en RDC en juin dernier.
Hi, I'm Amy, head gardener here at Castlefield Viaduct, the National Trust's newest garden project.
Et en Angleterre, la polémique enfle autour du National Trust, le plus grand organisme privé qui regroupe 500 résidences et manoirs historiques, mais aussi des parcs et des forêts. Bonjour Marie Billon.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Le National Trust évolue et veut intégrer dans ses visites les questions sur le passé colonial, l'esclavagisme, les questions de genre. Mais ces changements ne plaisent pas à tout le monde et l'association Restore Trust veut les contester de l'intérieur.
Oui, parce que la National Trust est très critiquée par certains membres et anciens membres qui n'aiment pas sa manière de gérer les nouvelles recherches et découvertes à la fois historiques et scientifiques. Tout a vraiment commencé en 2020 quand un rapport interne de la National Trust a été publié et passé en revue les liens de ses propriétés et de leurs propriétaires historiques avec la traite des esclaves et la colonisation. L'idée était ensuite de refléter ces nouveaux travaux dans les propriétés, que ce soit la maison de Rudyard Kipling dans le sud de l'Angleterre ou bien d'autres demeures de personnages historiques moins connus mais liés à l'Empire par exemple. C'est ce qui a plu à certains membres qui ont formé l'organisation Restore Trust, un jeu de mots sur restaurer la confiance ou restaurer la National Trust d'avant en gros. Pour eux, ces dernières recherches historiques étaient une manière de réécrire l'histoire selon des idéologies neuves. La Restore Trust s'affiche comme anti-woke et critique aussi la participation de la National Trust à les événements LGBT+, dans ses propriétés, mais aussi ses tentatives de ré-ensauvagement dans certains de ses espaces naturels. C'est cédé à une mode environnementale, dit Restore Trust.
Et Restore Trust, c'est un collectif bien organisé et qui a vraiment du poids.
L'organisme est composé de personnes qui, selon notamment le journal The Guardian, ont des liens avec des groupes climato-sceptiques comme la Global Warming Policy Foundation ou bien des groupes d'historiens comme History Matters, une réponse au mouvement Black Lives Matter. Et oui, ils sont de plus en plus organisés. Ils ont créé une nouvelle structure administrative en 2021 qui leur a notamment permis de payer une campagne électorale sur les réseaux sociaux. Ils ont un site internet bien soigné, mais ils auraient aussi recours à des méthodes plus classiques comme les prospectus sous les essuie-glaces des voitures, parce qu'on peut facilement voir qui est membre de la National Trust sur les parkings des propriétés grâce à la vignette qui permet de ne pas payer le parking. Restore Trust encourage même certains des membres qui ont quitté la National Trust parce qu'ils n'étaient pas contents de sa nouvelle ligne directrice ou pour toute autre raison, à redevenir membre pour pouvoir voter aux élections et donner une majorité à Restore Trust au conseil d'administration. Après leur défaite dans le scrutin de début novembre, lors du renouvellement du conseil d'administration, donc, ils accusent désormais le système de vote pour leur échec.
Et comment répond le National Trust à cet entrisme ?
Alors, la directrice de la communication de National Trust a dit que l'organisme est fier de sa tradition d'ouverture et de démocratie pour la gestion de sa gouvernance. Pas question donc de ne pas poser la question ou de ne pas donner leur voix aux membres de l'organisme. Mais la National Trust n'est pas non plus passive. La même directrice a accusé Restore Trust d'harceler certains de ses employés sur les réseaux sociaux. Elle critique aussi une vision anti-progressiste selon le journal The Guardian. Mais ce qui est à noter, c'est que la National Trust ne dévie pas de sa trajectoire, quitte à hérisser les poils de plus en plus de gens au passage, puisque fin octobre, elle a rouvert une propriété, Sudbury, après près de 2 ans de travaux. C'est le premier manoir dédié aux enfants. On ne fait pas que regarder, on peut jouer sur les tapis, il y a des dialogues interactifs avec des peintures électroniques, les petits peuvent revêtir des costumes et faire la fête comme en 1699. Alors ça ne plaît pas à certains qui estiment que c'est du nivellement par le bas, évidemment ça fait aussi bien des heureux dans les familles, et d'ailleurs la remise à plat de l'histoire de ces propriétés à la lumière des nouvelles recherches satisfait beaucoup de membres qui veulent connaître toute l'histoire, belle ou terrible, des grandes maisons qui jalonnent la campagne anglaise. Ces dernières élections, avec le plus haut taux de participation de l'histoire de la National Trust, selon l'organisme, montrent que la plupart de ses membres est satisfaite de la direction choisie.
Merci Marie Billon, à très bientôt. Et l'œil européen de Franceline Beretti, cette semaine, s'intéresse à cette surenchère populiste sur la question des migrants. On l'a vu à propos du navire Ocean Viking qui a finalement débarqué à Toulon, entraînant une crispation des relations entre la France et l'Italie. Les solutions les plus radicales ne parlent pas du tout du réel.
D'après plusieurs journaux italiens, il y a 10 jours, Giorgia Meloni a convoqué ses députés. La présidente du Conseil s'est expliquée sur les petits couacs de sa politique migratoire. Rappelez-vous, son programme, c'était le blocus naval.
Oui, Fratelli d'Italia propose un blocus naval. Il s'agirait d'une mission de l'Union européenne en accord avec les pays d'Afrique du Nord pour mettre fin avec eux à la traite d'êtres humains et instaurer en Afrique des spots gérés par l'Europe pour évaluer les demandes d'asile et juger qui a le droit ou pas à la protection internationale.
Sauf que des migrants débarquent encore, malgré quelques exceptions médiatisées. Ce n'est pas de notre faute, explique Meloni. C'est l'autorité sanitaire qui décide, et elle a voulu les faire débarquer. Ce constat d'impuissance était couru d'avance. Même si on met de côté les considérations morales et les lois internationales, concrètement, vous imaginez le coût des dizaines ou des centaines de navires, le personnel pour empêcher les embarcations d'arriver ? Quand Meloni parle de blocus avec l'Afrique du Nord, ce sont plusieurs pays avec lesquels il faut négocier un par un. Bon courage pour la Libye, où le gouvernement ne contrôle pas l'ensemble du territoire. La Grande-Bretagne a elle aussi eu de petits problèmes dans sa politique d'expulsion de migrants vers le Rwanda.
Initialement, 135 personnes devaient être à bord de cet avion. Ça a été très médiatisé et clairement affiché comme une politique du gouvernement de Johnson. Puis, à la fin, seulement 7 personnes devaient être expulsées dans le pays d'Afrique de l'Est, mais le vol a été annulé quand la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue.
La nouvelle politique migratoire britannique est suspendue maintenant à une décision judiciaire. C'est intéressant parce que la droite accuse la gauche de laxisme sur l'immigration, mais les solutions qu'elle propose semblent aussi déconnectées de la réalité. En Belgique, entre 2014 et 2018, Theo Franken, un indépendantiste flamand, était secrétaire d'État à l'asile et à la migration. Il vantait partout le « modèle australien », sans détailler. En 2021, un certain Jens a osé poser la question. Elle apparaît dans une vidéo de Theo Franken.
Cher monsieur Franken, je suis étudiant en histoire à l'université de Gand et j'ai une question sur le modèle australien dont vous parlez sans cesse.
Merci Jens, même si tu n'existes pas et que tu as sûrement été inventé par l'équipe de communication de Theo Franken, il est content de pouvoir préciser.
L'Australie a conclu des accords avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nauru pour y installer des lieux d'accueil. De cette manière, ils pouvaient intercepter les bateaux en mer et mettre les gens en lieu sûr, sans jamais qu'ils n'atteignent les frontières australiennes.
Ces lieux d'accueil, comme dit Franken, sont tellement accueillants que les taux de suicide y sont exceptionnellement élevés, que des gens s'y cousent la bouche ou se mutilent d'une autre façon, se battent, se font violer, et qu'ils peuvent rester dans cet enfer des années. Franken le reconnaît.
La situation dans les lieux d'accueil n'est vraiment pas idéale, bien au contraire. Pour moi, c'est inacceptable.
Bravo Théo. Mais pourquoi l'Europe réussirait-elle à faire des lieux d'accueil sympathiques pour des migrants dont elle ne veut pas ? Les citoyens sont-ils prêts à les financer, sachant par exemple que les prisons de nombreux États membres sont déjà dans un état lamentable ? Et comment intercepter les bateaux de migrants ? L'Australie paie les passeurs. Pas vraiment idéal, là non plus. On peut aussi tirer un trait sur les questions humanitaires. Éric Zemmour, candidat d'extrême droite à la dernière élection présidentielle française, l'assume. C'était sur la chaîne YouTube de Thinkerview.
Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration.
À quel prix ?
Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français.
Si on pousse la logique du blocus, du mur ou du modèle australien jusqu'au bout, on en arrive là. La vie des autres, on s'en fout. C'est parfaitement cohérent, mais pas sûr qu'une majorité d'Européens soit d'accord.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.